Alexandre Dumas, Black, chapitre 27. Où Monsieur le Chevalier de la Graverie est un instant ému par le scandale qu'il cause dans la vertueuse ville de Chartres. Cependant, dans une ville comme Chartres, un événement aussi considérable que celui de l'introduction d'une jeune fille dans la demeure d'un vieux garçon, personnage d'ailleurs important par sa naissance et par sa fortune, ne pouvait passer inaperçu. Les commentaires de chacun lui donnèrent donc bientôt des proportions gigantesques, et au bout de 8 jours, ils en avaient complètement dénaturé la portée. Monsieur de la Graverie, déjà suspect par les excentricités que lui avait fait commettre Black, devint en peu de jours, et par la pente naturelle des caquetages bourgeois, un homme affreux et immoral, qui, non content d'avoir séduit une jeune fille, n'hésitait point à donner le scandale public d'une cohabitation illégitime. Un homme, enfin, que ne pouvait honorablement connaître ni saluer aucune personne se respectant le moins du monde. Depuis qu'il y avait quelque amélioration dans son état, Thérèse commençait à s'inquiéter de ce qui pouvait plaire à celui qu'elle considérait comme un bienfaiteur et qu'elle se sentait disposée à aimer comme un père. Elle avait, en conséquence, exigé qu'il reprît le cours de ses promenades quotidiennes, qu'elle regardait comme nécessaires à sa santé. Le chevalier, de son côté, heureux de ce doux et affectueux servage, suivait ponctuellement les ordres de la jeune fille. Et, comme un instrument bien réglé qui, dérangé un instant, reprend au premier équilibre son mouvement habituel, il consacrait, comme autrefois, 2 heures entre son déjeuner et son dîner à une course sur les buttes. Seulement, cette course se faisait maintenant en compagnie de Black, qui, partageant tous les sentiments de son maître, semblait être, sinon le plus heureux des chiens, du moins un des chiens les plus heureux de la création. Nous avons dit que le chevalier s'était arrêté au plus pressé, c'est-à-dire qu'il avait résolu de pénétrer d'abord le mystère de la naissance de Thérèse. Prendre un parti n'avait pas été une chose facile pour un homme qui, jusque-là, avait fait de sa vie une somnolence indifférente et insouciante. Aussi, le parti pris sur le fond restait-il à décider la forme dans laquelle il serait poursuivi. C'était à chercher cette forme que le chevalier employait ses promenades. Que pouvait faire, que devait faire le chevalier pour arriver au but qu'il se proposait? Sa préoccupation était donc fort grande. Les gambades et les caresses de Black avaient seuls le privilège de l'en distraire. Aussi, le chevalier fut-il longtemps à remarquer l'affectation grossière avec laquelle ceux-là même qui avaient été le plus souvent ses hôtes avait l'air de ne pas le voir lorsqu'il passait près de lui, afin d'éviter d'avoir à le saluer. Cependant, un jour que, moins distrait que d'habitude, il avait salué cérémonieusement une vieille douairière qui tenait le haut bout de la société du cloître Notre-Dame, et qu'il avait remarqué qu'en lui rendant son salut, mais de la tête seulement, celle-ci avait allongé une moue dédaigneusement significative, Monsieur de la Graverie rentra chez lui fort inquiet. Comme tous les gens qui ont rétréci leur existence, il était fort soucieux du qu'en dira-t-on. Et à l'idée qu'il avait pu démériter de l'estime publique, il sentit tout son sang se glacer dans ses veines. Aussi n'eut-il point assez de force, assez d'empire sur lui-même, pour cacher sa préoccupation à Thérèse, et celle-ci sut interroger assez adroitement pour pénétrer le secret de sa contrariété. Le chevalier lui raconta tout simplement et sans commentaire l'impolitesse de la douairière. « Vous le voyez, cher et bon monsieur, » s'écria la jeune fille, « ma triste destinée réagit sur tous ceux qui s'intéressent à moi. Mais je ne souffrirai pas que vous en soyez plus longtemps victime. » « Comment cela ? » s'écria le chevalier, inquiet. « Oui, répondit Thérèse, grâce à vos soins, je suis guérie et puis reprendre mes travaux. Je vais donc m'éloigner, mais en vous demandant la permission de revenir de temps en temps, vous remercier de ce que vous avez fait pour moi, et vous prouver que je n'oublierai jamais que je vous dois la vie. » Le chevalier pâlit. Partir, dit-il, me laisser seule? Vous n'y avez pas songé, Thérèse. Mon Dieu, que deviendrai-je seule? Avant de me connaître, demanda Thérèse, ne viviez-vous donc pas seule? Avant de vous connaître, oui, je crois que je vivais comme cela, répondit le chevalier. Mais depuis que je vous connais, je me suis fait une douce habitude de votre présence. « Oh !» fit le chevalier, avec un douloureux retour sur le passé. « J'ai aimé, moi aussi. D'abord, votre... » Il s'arrêta. Thérèse le regarda avec étonnement. « D'abord une femme, » continua le chevalier. « Je l'ai tant aimée que j'ai cru que j'en mourrais quand elle... »«
Quand elle est morte ?» demanda Thérèse.
« Oui, » reprit le chevalier, « quand elle est morte. » Car l'infidélité, la trahison, l'oubli, mon enfant, c'est la mort.
Oh, je le sais bien, s'écria Thérèse, en éclatant en sanglots.
Bon, dit le chevalier en se frappant le front, voilà que je la fais pleurer à présent. Mais, sac à papier, je suis donc une double brute.
Non, 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 dit Thérèse, vous êtes le meilleur des hommes, et selon vous a fait souffrir vous, nul n'a le droit de demander à être exempté des douleurs humaines.
Oui, dit le chevalier avec mélancolie, on m'a fait bien souffrir, ma pauvre enfant. Par bonheur, j'avais un ami.
Ah, je l'avais bien aimé, et je l'aime bien encore, celui-là. N'est-ce pas, Black?
Black, qui, justement, regardait le chevalier en ce moment, comme s'il eût deviné qu'il allait être question de lui, s'approcha à l'appel de son maître, qui lui prit la tête entre ses deux mains et l'embrassa tendrement. Thérèse cherchait à deviner quelle liaison il pouvait y avoir entre Black et cet ami dont parlait le chevalier, et elle se demandait comment Black pouvait être appelé en témoignage de cette amitié. Mais ceci était tout simplement un problème qui lui était impossible de résoudre, et que le chevalier lui-même eût eu bien de la peine à lui expliquer. Monsieur de la Graverie resta quelque temps absorbé dans la contemplation de Black. Puis, tout à coup, redoublant de caresses pour l'animal et de doux yeux pour Thérèse, « Non, mon pauvre Duménil, dit-il, non, sois tranquille, va. Je ne l'abandonnerai pas. Quand toute la ville de Chartres devrait me tourner le dos, et quand toutes les douairières du monde devraient me faire la moue. » Thérèse regardait le chevalier avec une certaine crainte. Cet homme si bon, avait-il des tendances à la folie? En tout cas, ce devait être une folie douce et bonne que celle du chevalier. Et Thérèse se disait en elle-même qu'elle n'en aurait jamais peur. Elle reprit la première la parole.
« Il le faut cependant, monsieur le chevalier, » dit-elle. Le chevalier sortit de son rêve.
« Quoi, que faut-il, mon enfant ? » dit-il avec la plus grande douceur.
« Il faut que je m'en aille. »
« Ah oui, c'est vrai, » dit le chevalier, « vous me disiez cela. » Et moi, je vous répondais, « Thérèse, mon enfant bien-aimé, est-ce que vous croyez qu'il me serait possible de vivre désormais dans l'isolement ? »
Mais pensez donc, cher enfant,
à la solitude dans laquelle me laisserait votre départ.
Je pense à tout cela, monsieur le chevalier, et je pense surtout, en égoïste que je suis, à la peine que cela me fera à moi-même de vous quitter. Mais cette séparation est nécessaire. Lorsque je ne serai plus là, vous retrouverez les amis qui s'éloignent de vous aujourd'hui. Lorsque j'aurai cessé de troubler votre existence, vous reprendrez vos paisibles habitudes.
La troubler? Troubler mon existence? Ingrat enfant!
Mais apprends donc une chose. C'est qu'à part l'époque où... Le chevalier poussa un soupir, puis se reprenant. Je n'ai connu le bonheur que depuis que tu es entré dans cette maison. Triste bonheur, reprit Thérèse en souriant au milieu de ses larmes. Des secousses, des émotions continuelles, des tourments, des inquiétudes incessantes. Car, au milieu de ma souffrance, de mon atonie, de mon délire même, je vous voyais assez bon pour vous soucier de ma vie comme si vous étiez vraiment mon père.
Votre père, s'écria le chevalier, comme si j'étais vraiment votre père. Et qui vous a dit que je ne l'étais pas?
Oh, monsieur, dit Thérèse en soupirant, votre bonté pour moi vous inspire ce généreux mensonge, mais il ne saurait m'abuser. Si vous aviez été mon père, si vous aviez tenu à moi par un lien de parenté quelconque, auriez-vous, vous qui étiez riche et heureux, laissé mon enfance dénuée et misérable? Ma jeunesse eût-elle été privée de l'appui, des conseils, de l'amour de celui auquel j'aurais dû la vie? Non, monsieur, non. Hélas, je ne suis pour vous qu'une étrangère, que votre charité a recueillie. Qu'un sentiment de tendresse pour ceux qui souffrent vous inspire l'idée d'adopter. Mais certainement, mais par malheur, ajouta-t-elle en secouant la tête, je ne suis pas votre fille. Le chevalier baissa les yeux et courba le front. Ce que la jeune fille venait de lui dire le touchait comme un reproche. Il maudissait au fond de son cœur l'insouciance avec laquelle il avait laissé à son frère le soin de s'occuper de ce qui concernait l'avenir de madame de la Graverie. Il se méprisait d'avoir déserté par un mauvais instinct de conservation personnelle les soucis ordinaires de l'existence de chaque homme, et se demandait enfin comment il avait pu vivre de si longues années sans se préoccuper de ce qu'était devenu celle qui avait été sa femme et l'enfant qui, après tout, avait le droit de porter son nom. Le résultat de cette conversation, et surtout de la rêverie qui en fut la suite, avait été de stimuler vigoureusement les hésitations paresseuses du chevalier. Il tremblait que, cédant aux suggestions d'une délicatesse susceptible, Thérèse ne vînt à exécuter la résolution dont elle lui avait parlé. Et le cœur du bonhomme, rajeuni par le calme dans lequel il avait si longtemps vécu, était devenu tellement ardent dans sa nouvelle affection qu'il ne songea pas à se voir séparé de la jeune fille avec moins de terreur que s'il se fût agi pour lui d'une mort prochaine. Il se décida donc, quoi qu'il lui en coûtât, à faire un voyage à Paris. Ce voyage avait pour but de retrouver son frère, afin d'obtenir de lui des renseignements sur ce qu'était devenu madame de la Graverie et l'enfant dont il l'avait laissée enceinte. Quitter sa maison, ses douces habitudes, son jardin alors frais et embaumé, c'était un effort dont, il y avait quelques mois, le chevalier eût été complètement incapable. Aujourd'hui, qu'il avait à y laisser les deux affections qui remplissaient son cœur si longtemps vide, Thérèse et Black, le bonhomme s'y décidait, tant il s'était fait un immense changement en lui.
mais, en s'y décidant, il se trouvait lui-même très héroïque, et pour qu'il prît une si dure résolution, il ne fallait pas moins que l'espoir de s'assurer à jamais un bonheur qui lui semblait si doux. Cette décision prise restait à la mettre à exécution. Or, c'était là la difficulté. Chaque jour, le chevalier disait « Ce sera pour demain ». Demain arrivait, et le chevalier, n'ayant pas retenu sa place à la malle-poste, disait « Ou je ne trouverai pas de place, ou je serai forcé d'aller en arrière ». Et aller en arrière en voiture était chose insupportable au chevalier. Ce n'était pas sa valise qui le retenait. Il en avait acheté une toute neuve, dimension exigée par la loi pour les malle-poste. Il l'avait bourrée de linge et d'habits. Avec une pareille valise, il pouvait retourner à Papeïti. Mais la valise restait toute bourrée dans un coin de la chambre. Il n'y avait qu'à abaisser le couvercle et donner un tour de clé. Le chevalier n'abaissait pas le couvercle. Le chevalier ne donnait pas le tour de clé. Le chevalier, enfin, ne partait pas. Ce qui ne l'empêchait pas de dire, tous les jours, en embrassant Thérèse et en caressant Black, « Mes pauvres amis, vous savez que c'est demain que je pars.